Attention, vous êtes sur le point de pénétrer dans une zone de forte turbulence musicale. Chronique, rétrospective, thématique. Bienvenue dans Metal Advisory, le podcast explicite 100% métal.
Je suis désolé, c'est assourdissant.
Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode 2024. Je pourrais même dire que c'est le nouvel épisode tout court de Metal Advisory, le podcast explicite 100% métal. Ça faisait un bail, ça fait plus d'un an que j'ai pas enregistré d'épisode. Pour Metal Advisory, j'ai l'impression que ce podcast, c'est un peu le dernier de la classe de mes podcasts. Et dès à présent, voilà, je vais le dire, hein, il n'y a pas de plan établi, si ce n'est de chroniquer à l'envie, des discographies, des albums qui sortent. Donc plutôt que de me lancer en fait dans une ligne éditoriale que je ne tiendrai pas, je laisserai le suspense planer. Donc je pense que pour Metal Advisory, ça sera à peu près pour cette année 2024, peut-être un peu moins d'une dizaine d'épisodes. Alors non pas que je considère les musiques extrêmes et ce projet comme en dessous de mes autres projets, c'est juste je ne peux pas me démultiplier. Et c'est vrai que les deux autres podcasts me prennent du temps, et vous vous dites, dès le début, oui. Le mec est déjà en train de s'excuser de ne pas nous livrer des épisodes, donc les trois quarts du temps, je sais que l'audience que j'ai sur Chronique d'un Quadra ou Septième Dimension est plus ou moins la même, à part vous, petits nouveaux et petites nouvelles auditeurs, auditrices sur Metal Advisory, mais les trois quarts du temps, on va dire que les gens qui écoutent Metal Advisory sont plus ou moins les mêmes personnes que pour Septième Dimension et Chronique d'un Quadra. Donc je comprends qu'ils ne m'en veuillent pas de ne pas livrer autant d'épisodes que ce que je voudrais bien faire. Et comme le but n'est pas de tomber dans la mendicité et de vous demander de me supporter sur des plateformes de rémunération participative, etc. Donc Metal Advisory, comme mes autres podcasts, restent des passions. Et ces passions, elles sont offertes gratuitement au public, donc voilà, ça restera ainsi. Donc comme vous avez pu le voir, pour ceux et celles qui suivent Metal Advisory sur les réseaux et les autres podcasts, j'ai refondu un petit peu toutes les identités pour essayer d'homogénéiser mes interventions audio et qu'on comprenne bien que chacun des podcasts est une facette de la personnalité de celui qui intervient dans le micro. Et je suis pas peu fier en fait de ce que j'ai pu tirer de mon savoir-faire graphique, pour ceux et celles qui ne le savent pas, notamment les purs auditeurs auditrices de Metal Advisory, moi je travaille dans l'audiovisuel, donc forcément je sais manier des outils graphiques. Et l'émergence des IA me permet aujourd'hui de booster un petit peu toutes les créations visuelles, et notamment, on va pas se mentir, aussi les extraits, notamment les reels sur Insta et sur TikTok. Donc je suis plutôt satisfait de ce que j'ai pu générer. Donc si vous écoutez ce podcast, vous voyez le nouveau logo, la nouvelle vignette d'épisode, les nouveaux posts sur Insta et les reels dédiés. Et donc à l'avenir, l'idée derrière ça, c'est non pas d'utiliser des visuels existants, mais d'en générer de nouveaux, pour essayer, on va dire quelque part, réinventer la roue, au niveau de mes interventions audio et de l'écran qui l'accompagne, c'est-à-dire les visuels. Donc quitte à revenir en force, autant le faire comme il faut. Alors vous pourriez vous dire qu'en termes de temporalité, de me voir me pencher sur la discographie, la carrière d'un groupe comme Slayer, est plutôt opportuniste, dans le sens où il y a eu des annonces dans ce mois de février 2024. J'ai envie de vous dire, vu que j'ai retardé mes interventions, ça fait déjà un moment que j'avais cet épisode en tête, et comme quoi j'ai bien raison de le faire, puisque l'actualité récente me donne raison de parler de Slayer. Alors, Slayer, donc faire un podcast qui s'appelle Metal Advisory et de ne pas parler de Slayer, c'est un peu une faute professionnelle. Donc, dans tous les groupes qui ont bercé mon adolescence et que j'écoute encore à l'heure actuelle et qui sont une source d'inspiration, bon, bah, Slayer, il arrive dans le top 3. Voilà, donc à côté de Slayer, cohabite par exemple un groupe que je traiterai qui est Faith No More. Et pendant que j'enregistre ça, je suis encore en train de chercher le troisième parce que je ne m'étais pas posé la question, vraiment. Mais Slayer, c'est un de mes petits chouchous. Et je vais commencer dès à présent cet épisode qui s'intitule « Vitesse et violence, l'histoire d'un règne » et ben par ma découverte de Slayer. Voilà, donc c'est le côté un petit peu émotion de ce podcast. Donc moi j'ai découvert, parce que chacun a une porte d'entrée, c'est ça qui est bien avec des groupes mythiques comme Slayer, on a tous plus ou moins une porte d'entrée, et je peux entendre qu'il y ait des gens qui sont entrés avec Diabolus in Musica dans la discographie de Slayer. D'autres, les puristes, parce que voilà, il y a plusieurs catégories, on peut décomposer la fanbase de Slayer en plusieurs catégories qui correspondent aux trois grosses périodes du groupe. Les puristes en fait se situent plutôt du côté de Rain in Blood et Season in the Abyss, voire Hell Awaits. Voilà. Et c'est vrai que moi étant né en 80, je suis tombé dans Slayer avec l'album, alors dans un premier temps avec le double live Decade of Aggression, et c'est vraiment avec Divine Intervention que je suis tombé dedans. Et je suis tombé dedans parce que j'ai été, à 14 piges, j'arrive à le dire, cette pochette, ce niveau de violence, sans même écouter la musique, que l'écran de cet album proposait, m'avait marqué durablement la rétine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, en 94, ce que je vais écouter va être du niveau de Metallica, il y avait eu les Guns avant, on allait à l'époque du grunge, donc Nirvana, et le truc le plus violent que j'ai pu écouter à cette époque-là, c'était le Far Beyond Driven de Pantera. Et c'est vrai que ça débarque en 94, et ce Scud Divine Intervention, c'était le grand frère d'un pote, voilà, donc qui pas du tout un métalleux, qui l'avait acheté. Voilà. Alors pourquoi, on ne saura jamais. Et la petite histoire là-dedans, c'est que moi, quand je vois le Scud, eh ben, je lui braque. Voilà. Et c'est littéralement ça. Je lui demande si je peux lui emprunter le CD. Et en fait, je ne lui ai jamais rendu. Voilà. C'est pas beau, hein, je sais, mais... Et c'est vrai que il m'avait interpellé. Alors déjà, le visuel de la galette, et c'est hyper violent parce que t'as une espèce de forme, t'as ce pentagramme en fait, hein, formé avec des épées qui est souvent repris, hein, dans les visuels de Slayer, donc incrusté dans un espèce de crâne tout droit sorti des enfers. Et quand déjà on a le sticker Parental Advisory Explicit Lyrics dessus qui t'explique déjà d'entrée de jeu que ce qui va être dit, ça va être chaud bouillant, et quand t'ouvres le CD, ce qui recouvre, voilà, l'impression, la sérigravure du CD, c'est l'avant-bras d'un gars qui s'est scarifié le logo de Slayer. Voilà. Donc déjà d'entrée de jeu, t'as l'impression de détenir le truc le plus dangereux que le monde de la musique ait produit. Et je pense que c'est le cas. Donc voilà, on a cette scarification sur l'avant-bras, moi, qui m'a marqué. Je me suis dit, mais c'est quoi ce groupe de malades mentales? Et quand on tournait la pochette et qu'on lisait les titres l'enchaînement des 10 titres qui composent, vous voyez que je trouve mes mots, c'est normal, on est en début de podcast, des 10 titres qui composent ce Scud, c'est chaud bouillant quand même. Voilà, on a du Sex, Murder and Heart, D2Head, Killing Fields, et plus tu ouvres un petit peu le... Parce que là, c'est toujours même pas l'écoute de l'album en lui-même, hein, et quand on commence à parcourir en fait le livret, les mecs, ils font peur. Voilà. Alors, c'est fait exprès, hein. Mais tu vois bien que sur leur gueule, on est très, très, très loin des tendances glam de Guns. On n'est pas trop dans le trip un peu clodo qu'avait Pantera à l'époque. Les mecs sont pas là pour rigoler. Et surtout, le Kerry King, il a une tête. Voilà, le mec rigole pas. Voilà, il rigole pas. Et plus tu regardes les paroles un petit peu du livret, etc., tu vois que ça parle d'expérience dans les camps de concentration, mais c'est surtout orienté serial killer. Donc, tu te poses la question de est-ce que le groupe kiffe, en fait, le meurtre, la torture, le viol, etc. Donc moi, à ce moment-là, avant même de mettre le scud dans la platine, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et presque, j'avais peur. Hein. Et c'est ça, le point de départ que j'ai eu avec Slayer, c'est de le haïr pour ce qu'il dit et d'aimer en même temps cette forme de violence. Donc il y a vraiment cette dichotomie d'attraction-répulsion avec le groupe. Et quand t'écoutes ne serait-ce que les premières notes de Killing Fields avec cette batterie martiale et cette espèce de riff rampant venu des enfers, tu te dis waouh, je pense que j'ai atteint le degré de violence que je cherchais pas forcément, mais en tant qu'ado à l'époque, je me suis dit, là, je suis sur un objet très très dangereux. C'est le même effet que de tomber sur le flingue de ton père, à peu près. Voilà. Donc, effectivement, donc ça, je peux déjà le dire dès à présent, avec le recul nécessaire et toute la culture métal que j'ai pu accumuler et le plaisir que j'ai à l'écouter. Oui, effectivement, des branches plus violentes, comme le death metal, le brutal death metal, et tout autre dérivé extrême, comme le black metal, avec les voix de sorcières un peu criardes, non, pour moi, ça n'arrive pas à ce degré de violence-là. Là, il y a une certaine forme d'homogénéité dans l'ensemble, c'est-à-dire le visuel, et c'est un visuel qui est presque réaliste. Voilà, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tous les autres courants dont je vous ai parlé parlent de démons, de monstres, machin. Là, il y a un côté, il faut remettre aussi ça dans le contexte, hein. On est dans le milieu des années 90, c'est l'émergence au cinéma aussi de tous ces films qui traitent du psycho, du serial killer, etc. Donc psycho killer, serial killer. Donc on est à un niveau de glauque assez poussé. Et pour moi, Slayer reste le groupe le plus sale, le plus méchant et le plus violent de la scène métal. Voilà. On n'arrive pas à un autre degré. Les autres, c'est plus du folklore. Voilà. Eux vraiment, il faut remettre dans le contexte, t'as l'impression qu'ils rigolent pas. Voilà. C'est un peu le même effet que qu'on pourrait retrouver dans le hip-hop avec ces groupes de hip-hop où les trois quarts font partie d'un gang, en fait. Et que dans les paroles, tu sens que ce qu'ils racontent, c'est du vécu. Et là, en fait, on a le même impact sur ce groupe-là. Et donc, moi, voilà, ça a été une de mes claques musicales. Divine Intervention. Alors, je sais que c'est... Alors, je n'ai jamais compris, on va le creuser un petit peu dans ce podcast-là, pourquoi c'est un mal-aimé, cet album. Je trouve que Slayer atteint le paroxysme de son talent dans cet album-là. On a les titres les plus rapides qu'ils aient produits. Le D2Head, là, c'est 2 minutes 30 montre en main. C'est toujours une claque quand tu l'écoutes. Et il y a aussi, c'est pour ça aussi que ça vous l'avez pas demandé, le thrash metal restera mon sous-genre préféré, parce que c'est le genre de musique c'est un défouloir, un exutoire, c'est le truc que tu peux écouter à la salle de sport quand t'as une journée de merde ou que t'en as plein le cul, ou que tu veux faire chier tes voisins, hein. On témoigne cet épisode de South Park où ils mettent Raining Blood pour faire fuir les hippies, ça, c'est à peu près ce niveau-là. Donc Slayer, j'ai envie de vous dire, c'est conseillé par la sécurité sociale pour que les gens aillent bien. Voilà. Donc c'est un vrai exutoire, un vrai défouloir, et c'est vrai que cet album a été une claque. Voilà, il y a des claques comme ça dans notre parcours musical. Moi, en 94, j'en prends deux dans la bouche. C'est Far Beyond Driven de Pantera et c'est Divine Intervention de Slayer. Voilà, ça se pose là. Et c'est pour ça que dans cet épisode dédié à Slayer, Divine Intervention occupe une place. Voilà, c'est dans mon cœur, ça occupe une certaine place. Et ça fait partie de mon bagage musical. Donc maintenant, on va revenir un petit peu sur... maintenant que j'ai remis un petit petit peu comment j'étais rentré dans la discographie de Slayer et comment j'en suis venu à remonter un petit peu les albums d'avant et à écouter ce qu'ils faisaient après. On va rentrer un peu dans le vif du sujet et présenter le groupe. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce groupe-là, dans ce podcast-là, c'est que je vais le découper en trois périodes. Il y a vraiment trois périodes distinctes. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir, dans un premier temps, la période que je qualifierais de l'ascension, qui est celle de la formation, qui va comporter différents changements de producteurs et qui va atteindre son firmament avec Rain in Blood, donc la triplette, hein, Rain in Blood, Source of Heaven et Season in the Abyss. La deuxième période qui va être une sorte de modernisation de la formule et un batteur qui s'en va, qui est remplacé par un autre, donc qui va être composé de Divine Intervention, Diabolus in Musica, God Aid Us All, et puis après l'ultime période où on est plus sur un retour aux sources et une fin de carrière, voilà, donc qui va comporter bien entendu les albums que sont Christ Illusion, World Painting Blood et le dernier en fait, hein, Repentless, voilà, qui est le dernier album date. Voilà les trois périodes, voilà comment va s'articuler ce podcast, mais dès à présent on va s'écouter quelques notes des premiers efforts de ces membres éminents du Big Four du thrash metal américain. Donc là, bien entendu, sur chaque période, sur chaque chronique de disque, je vais intercaler des titres qui, moi, me parlent, en fait, hein, par rapport à Slayer. Hein, donc n'hésitez pas, bien entendu, sur les pages officielles du podcast, à me partager vos titres préférés, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si cet épisode, c'est de la merde ou non, on prend, hein, bien entendu, toutes les informations. Donc, Slayer, en fait. Slayer, c'est créé quand ? Slayer, c'est créé en 81. Voilà. Donc c'était un groupe... Qui on va dire est actif de 80 à 2019, donc c'est 38 ans de carrière, c'est 11 albums officiels, hein, je compte pas les albums live, l'album de reprise aussi en hommage au hardcore, donc voilà, c'est vraiment 11 albums studio originaux, voilà, plus après une palanquée de live, un album de reprise, et c'est peut-être le seul groupe du genre, voilà, trash et même du genre metal, à conserver un niveau de qualité d'album en album équivalent. Voilà, il n'y a pas beaucoup de groupes. Hein. Donc si on prend d'autres membres éminents du Big Four, mais alors Metallica, bon, après moi ça n'engage que moi. Moi Metallica ça n'existe plus après le Black Album. Certains diront même avant ça. Donc Metallica pour moi a tout dit. Jusqu'au Black Album, après ils n'ont plus rien à dire. Megadeth, il y a des sorties de route, etc. Pareil, eux ils ont tout dit en quelques albums. Et c'est vrai que Slayer c'est l'un des rares à... Certains diront qu'ils font toujours le même album. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord quand même. On n'est pas. Alors, on pourrait les qualifier de AC/DC du trash, mais on n'est pas quand même sur vraiment cette redite. Il y a toujours à boire et à manger dans leurs albums. Et il y a toujours un soupçon de renouveau dedans, donc ils ont maintenu ce cap, hein. C'est pas évident quand même, hein. Sur 38 ans de carrière, à rester constant, à rajouter de la nouveauté, revenir en arrière, repartir dans un autre sens, incorporer des choses, donc on est vraiment sur du très 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 haut niveau. Donc ils sont formés en 81, et quels sont les membres d'origine, parce que ces membres-là vont évoluer, donc on retrouve au chant et à la basse, donc Tom Araya, qui lui est d'origine chilienne, et c'est vrai que de toute façon, chacun des membres du groupe, ils ont une tête, ils sont pas là pour rigoler. Tu vois que c'est marqué sur sa tronche. Donc, le Tom Araya, quand il s'énerve, t'as pas envie d'être dans les parages, quoi. Donc, Tom Araya, chant, basse. Kerry King à la guitare, qui est pas le guitariste le plus philosophe de la scène, mais il est dans l'efficacité constante et il déroule des parpaings avec sa guitare comme certains maçons, eux, assemblent des murs. Voilà. Donc, à côté de lui, donc, parce qu'en fait, on n'a pas, c'est ça qui est intéressant avec Slayer, c'est pas qu'il n'y a pas de, si on comparait avec un groupe de la New Wave of British Heavy Metal qui est Iron Maiden, on va avoir une section rythmique où il y a le guitariste rythmique et le lead guitar, voilà, qui vont taper les solos. Et là, en fait, les Kerry King et Jeff Atman, donc ça, c'est l'autre gratteux du combo, eh ben, il passe tour à tour de rythmique à lead. Donc, en fait, c'est un peu le côté Top Gun du truc, hein, en fait. Hein. Voilà, il y en a un qui tape une échappée, puis il revient se mettre en formation pour taper le rythme, pour que ça soit ensuite, ou même au catch, hein, il tape dans la main de l'autre, et l'autre, il va taper le solo. Et chacun, en fait, parce que c'est bien pensé, hein, Slayer, musicalement, c'est une machine de guerre. Hein. Donc, c'est-à-dire que le Hanman, il va riffer très, très aigu, en fait. Voilà. Alors que le King, il va être plutôt dans les médiums, il va taper un peu au-dessus, voilà. Donc on arrive sur chaque morceau à identifier qui fait quoi, en fait, et pour se rejoindre après ensemble sur du défouraillage sonore en mode parpaing aussi, hein. Donc voilà, donc on a deux gratteux, Kerry King, Jeff Atman et au fût, donc à la batterie, on va retrouver Dave Lombardo. Et ce qui est important avec cette formation, c'est que chacun dans son domaine envoie sévère. Le Dave Lombardo, il est complètement cheaté à la batterie. C'est, j'ai presque envie de vous dire que c'est le père de la double pédale, le mec. Hein. C'est un enfer derrière les fûts. Et ce qui m'a toujours impressionné avec Slayer, c'est que même quand on a remplacé des membres éminents, on a toujours gardé le même niveau. C'est-à-dire que quand le Dave Lombardo, il se fait remplacer, voilà, c'est par un Paul Bostaff qui lui aussi envoie sévère. Quand Jeff Hanneman il passe l'arme à gauche, il se fait remplacer par le copain d'Exodus, Gary Holt. Donc à chaque fois, on a quand même des sections rythmiques qui sont pas là pour déconner. Hein. De manière sonore, c'est un blitzkrieg, hein, le machin. Quand ça déferle, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Donc on a donc ce groupe qui se forme en 81, et c'est une période, à l'époque aux États-Unis, c'est l'émergence du thrash. Donc c'est à cette époque-là, tous ces groupes-là vivotent autour de la machine Metallica, qui va sortir son premier album en 83, qui est Kill 'Em All, et très rapidement, Slayer, eux aussi, sortent leur premier album à cette période-là. Donc ils sont vissés au cul de Metallica, et leur point de départ, il est tout con, mais il est fabuleux. C'est-à-dire que, pour les gens de l'époque, Metallica, c'était le truc le plus extrême qu'ils avaient entendu, et ben Slayer décide d'être plus extrême que le truc le plus extrême. Vous voyez le point de départ. Donc leur musique va prendre l'énergie du punk, la hargne du hardcore, et vous prenez un morceau de Kill 'Em All de Metallica, et vous le multipliez par deux en termes de vitesse, on a quand même des titres qui dépassent les 200 PBM, hein, quand même. Hein. Ça, c'est pour Rain in Blood. Donc, c'est quand même pas de la petite bière, le machin. Donc on va avoir ce line-up qui va se fixer. Très rapidement, ils vont sortir un titre qui s'appelle Aggressive Perfector pour cette célèbre compilation musicale Metal Massacre. Eux, ils sont sur le Metal Massacre 3, alors que Metallica était sur le premier Metal Massacre. Et donc, c'est via Metal Blade Records, qui avait sorti Metal Massacre, qu'ils sortent leur premier album, Show No Mercy, qui est autofinancé. Voilà. Donc, on va pas se mentir, Show No Mercy, bon, si vous l'écoutez aujourd'hui sur des plateformes de streaming ou si vous l'avez récupéré, ça se trouve, hein, en vinyle ou en CD. Bon, ça n'a pas le meilleur son du monde. Autant, je suis capable de vous dire que Kill 'Em All a un certain charme dans cet enregistrement un petit peu à l'arrache. Autant celui-là, bon, tu sens déjà, il y a déjà des promesses, mais ça a plus un côté démo. Voilà, c'est une démo, on va dire, qui a un joli écrin, mais ça n'empêche pas déjà de contenir en son sein deux futurs classiques sur scène. Donc, à noter que sur cet album-là, The Antichrist, Die by the Sword, Black Magic, Show No Mercy, tout ça, c'est des titres qu'on retrouvera, c'est des passages obligés en live, donc qui sont améliorés, bien entendu, avec le son du live et l'expérience et la dextérité des membres du groupe. Mais à l'époque, déjà, on pouvait sentir ce côté vilain, sale et méchant, quoi. Parce que déjà, dans les titres que je vous ai donnés, ça convoque tout. Voilà, parce que c'est un groupe hein, qui va jouer très très rapidement dès le départ. Ils vont décider de prendre tout ce qui ne plaît pas au grand public, donc c'est-à-dire le satanisme, les serial killers, la Seconde Guerre mondiale, les nazis, le meurtre. Voilà, donc ça c'est leur fond de commerce. Voilà. En même temps, j'ai envie de vous dire, bon, d'un côté, on a un Manowar qui part sur des bandes de gars musculeux qui se battent dans des épopées guerrières contre des démons. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est une proposition qui en vaut une autre, hein, celle de Slayer. Mais très rapidement, le but du groupe, c'est de choquer. Et il choque à tous les niveaux. Parce que ce groupe-là, sur scène, c'est quand je vous dis que c'est une machine, c'est que ça bronche pas. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir le Araya. Alors déjà, en termes de look, bon, déjà, le Kerry King va évoluer très rapidement de longs cheveux à complètement chauve avec des bracelets à clous. C'est de la veste en cuir, bracelet à clous, limite imagerie satanique. Et les deux guitaristes vont de gauche à droite sur scène et envoient des riffs de l'enfer pendant que le chanteur bassiste, il hurle dans son micro et il headbang à se casser le cou. Hein, voilà. Et c'est comme ça pendant plus d'une heure sur scène. Donc ça envoie sévère. C'est pas là pour déconner. Et comment je peux en parler? Alors moi, je les ai pas vus sur le début de leur carrière. Je les ai plutôt vus sur les différentes éditions du Hellfest sur lesquelles ils étaient. En plein air, sortir le son qui sort, etc. C'est du sérieux. C'est pas là pour déconner. Donc voilà. Donc premier album qui marque les esprits. Très rapidement, ils sortent un EP de 3 titres avec un autre titre à l'intérieur de cette EP qui fera les bonheurs de la scène live, qui est Chemical Warfare. Donc ça, c'est pour 84. À ce moment-là, il y a un peu de mouvement. Bon, j'en parle, hein, parce que certains pourraient le dire que bon, il y a un peu de mouvement dans le line-up du groupe. On a un Kerry King qui part faire un tour chez Megadeth. Voilà. Parce que bon, il y a quand même une envie de gagner de la thune aussi avec la musique. Et bon, bah, très rapidement, le Kerry King, comme je vous ai dit, hein, qui est pas le plus intelligent du groupe, vous le mettez dans la même pièce que le Dave Mustaine, vous imaginez bien que l'histoire elle a pas duré longtemps, donc voilà. Donc Kerry King repart très très rapidement du côté de chez Slayer, et ça créera la légende, parce que les deux là, le rouquin et le chauve à pic, ils vont pas arrêter de s'envoyer des cadeaux de Noël bien sentis par presse interposée pendant toute leur carrière, donc voilà. Donc, toujours chez Metal Blade, on monte d'un cran, 1985 plutôt, sort l'album Hell Awaits, voilà, qui peut être considéré comme le deuxième album du groupe, et là déjà, ça rigole plus. Donc, alors, pourquoi ça rigole plus? Parce que on a une évolution des compos qui tend vers quelque chose de plus progressif. Donc il y a toujours hein, cette influence hein, typée Maiden, avec de gros breaks et des changements de rythme. Et déjà, dès à présent, on se prend une grosse mandale avec le titre Hell Awaits. Moi, personnellement, c'est peut-être l'un de mes titres préférés du combo. Un titre de 4 minutes tout en montée progressive. Et je ne sais pas comment... Voilà, ils ont réussi dans leurs accords, dans leur harmonie, quelque part, si on peut parler d'harmonie, à avoir un putain de côté poisseux. Quand vous écoutez Hell Awaits, parce que c'est ce que ça veut dire littéralement, c'est l'ouverture des enfers. Hein. Ça ne rigole pas. Voilà, donc le titre est ouf. Après, à noter que l'album ne fera pas mieux. Voilà, tout le reste des titres est assez homogène. Moi, c'est un album que j'ai récupéré en vinyle. Voilà. J'aime bien le réécouter parce qu'il a ce côté, ce son un peu à l'ancienne en fait, hein, typé années 80. Moi, je peux retenir. Qu'est-ce que je peux retenir comme titre sur cet album? Bon, là, c'est Praise of Death, Necrophiliac. Voilà, mais l'ensemble reste homogène. Hein. Ce qu'il en ressort, c'est Hell Awaits. Mais rien ne nous prépare à ce qui débarque en 1986. Donc, vous avez pu reconnaître ce titre mythique, cette intro mythique de cet album qui ne l'est pas moins. 1986, 28 minutes, 10 titres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 28 minutes, c'est même pas 30 minutes, c'est même pas une demi-heure. 10 titres un déferlement de violence, on n'était pas prêt. Donc on va remettre le point de départ. Slayer tente un coup, il fallait l'oser. Là où avant il était chez Metal Blade, il tente un coup avec un producteur de hip-hop, qui est Rick Rubin, voilà, qui vient de monter son label Def Jam. Ça deviendra Def American, puis American Recording par la suite. Hein. Ils vont rester longtemps hein, sous l'hégémonie de Rick Rubin. Et le mec, voilà, le producteur, il tente un coup. Il dit, bon, ben voilà, on prend l'énergie qu'il y a dans... qu'il y avait dans... putain, j'arrivais. Le mec, il va tourner ses notes, il en perd dans Show No Mercy. Et Hello Wait, on arrête de faire des structures compliquées, on limite les titres entre 2 minutes et 3 minutes grand max. Et il canalise l'énergie. Et les gaziers, ils livrent un album qui fera date dans toute l'histoire du métal. Et j'ai envie de vous dire, dans l'histoire de la musique en général, on n'avait pas vu un tel degré de violence. De toute façon, à l'heure actuelle, cet album est un inégalé et inégalable. Voilà, tout le monde a essayé de s'y frotter, personne, même le groupe lui-même hein, n'a pas réussi à réitérer cet effort-là. Dans cet album là il y a 10 titres, il n'y a rien acheté déjà d'entrée de jeu, il n'y a rien acheté. Par où on commence? Le degré de violence, il est où? C'est à dire que si on trouvait qu'avant cet album là Sayer c'était rapide, ben là on n'est pas prêt hein. Là ça descend le manche et ça remonte le manche hein, dans une vitesse incroyable. Le titre, le riff de Raining Blood est là pour le démontrer et le prouver. C'est une déflagration de violence. C'est un album fait pour le mosh pit. C'est un album fait pour se défouler. Pour moi, tout est incroyable. Si je devais retenir que quelques titres, hein, parce qu'il n'y a rien à acheter. Angel of Death, Altar of Sacrifice, Jesus Saves, Reborn, Postmortem et Raining Blood, c'est la cerise sur le gâteau, hein, c'est le titre. Raining Blood, c'est pleuvoir du sang quand même. Hein. Et c'est ce qui se passe aussi quand ils le jouent sur scène. Hein. Voilà, ils sont coulés, alors, bien entendu pas du sang, hein, mais du colorant. C'est pour donner le niveau de violence du truc. Bon, bah, ça a marqué tout, hein, ce truc-là. Donc on va pas se mentir, hein. S'il n'y a pas cet album, il n'y a pas de death metal, il n'y a pas de black metal, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de brutal death metal, de tout ce que vous voulez. Donc c'est un album de ouf. Les textes sont d'une violence, ça y parle des expériences menées par le docteur Mengele, hein, c'est ça Angel of Death, donc faut pouvoir s'enquiller ce truc-là quand même, hein. Et là, c'est un disque qui a lutté pour sortir, hein, parce que personne n'en voulait, hein. Voilà, et c'est aussi ce genre de disque, c'est à cause de ce genre de disque qu'on a eu ce mouvement de la MPAA, voilà, et du Parental Advisory, Explicit Lyrics ou Explicit Content sur les albums, hein. Donc c'est, j'ai envie de vous dire, c'est au métal, ce qui est brain dead au film gore. Voilà, c'est une date, c'est un indépassable. Donc déjà, on est à 3 albums, le 3e album, c'est un chef-d'œuvre. Bon, on a envie de se poser la question de qu'est-ce qu'on va livrer par la suite. Voilà, c'est quoi la suite, typiquement. Voilà, c'est ce que les gens se sont posés comme question. Et là, à cette époque-là, je ne sais pas s'il faut vous remettre un petit peu... l'église au milieu du village, on est en 86, tu viens de t'envoyer Raining Blood, à côté Metallica, ils sont pas là pour déconner aussi, hein. Tu vois, il y a eu déjà Kill Em All, Ride the Lightning, t'as Master of Puppets qui débarque, bon, Megadeth, et t'as quelques encablures de balancer, le Rust in Peace, sacrée période hein, pour le thrash metal, ça rigole pas du tout, hein. Voilà. Donc la réponse arrive très rapidement 2 ans plus tard. We'll be right back. Bon, South of Heaven, on a pu en entendre quelques notes. 38 minutes toujours, 10 titres, hein, donc c'est pas un album qui est long. Ben c'est pas un de mes préférés. Je l'aime pas beaucoup cet album en fait, et beaucoup de gens ne l'ont pas aimé, donc ils ont volontairement pris les gens à rebrousse-poil en ralentissant le tempo. Bon, y a des titres rapides, hein, rapides dedans, hein, c'est pas le problème, mais on va avoir du rapide et du très très lent. Moi je vois cet album comme le passage obligé avant l'album suivant. Voilà. Bon, j'aime le South of Heaven, voilà, mais j'aime que deux titres en fait. J'aime South of Heaven et Mandatory Suicide, voilà, qui pour moi sont des très bons titres. Le reste, je suis pas client. Voilà, c'est lent, c'est mélodique, c'est bien, c'est l'arrivée de la mélodie chez Slayer. Alors mélodie, ne nous emballons pas. Hein. c'est la mélodie limite d'un film d'horreur, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis pas convaincu. Voilà, je l'ai réécouté quand même, hein, parce que bon, ce qui est cool avant de faire cet épisode, c'est que je me suis farci un peu toute la discographie. Et effectivement, je suis, voilà, même en l'écoutant aujourd'hui, autant même un Show No Mercy, je m'éclate, celui-là, je m'éclate pas. Je sais pas, il y a un truc. Pourtant, il y avait Greg Rubin à la prod et tout ça, mais je sais pas, ça sonne pas comme j'aime, je suis pas emballé, même encore aujourd'hui, donc, mais bon, après, qu'est-ce que Slayer en a à foutre de mon propre avis, mais bon, je pense que c'était le passage obligé avant la claque 2 ans plus tard. Donc là, on débarque en 1990 et bim, et ben deuxième chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Season of in the Abyss, c'est tout est bon dedans. Voilà, c'est comme le cochon, hein, tout est bon. Voilà. À noter que bah, sur cet effort, y a deux producteurs. On a Rubin et puis on a aussi Andy Wallace. Donc ceci expliquant peut-être cela. Donc Andy Wallace, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est le producteur des meilleurs Sepultura. C'est le producteur de Nirvana. C'est le producteur de Faith No More. C'est le producteur Rage Against the Machine, hein, donc ça rigole pas, quoi. On est en 90, donc voilà, ils ont deux producteurs aux manettes, et je trouve que cet album, c'est peut-être l'un de mes préférés de Slayer. Voilà. Alors j'adore, hein, vous l'avez compris, hein, j'adore Raining Blood, hein, mais c'est vraiment un cas de conscience, hein, entre Season in the Abyss et Raining Blood, c'est pas la même cam, en fait. Les deux sont excellents, voilà. Pour moi, Season in the Abyss, c'est l'alliance parfaite entre les deux disques que j'ai cité, c'est-à-dire Rain in Blood et South of Heaven, et on a du violent et du mélodique, et du rapide et du poisseux, voilà, donc tout est bon dans le disque, et je pense que la pépite de cet album, c'est Dead Skin Mask, une mélodie, mais c'est glauque, avec ce cri de petite fille à la fin en arrière-plan, petite fille possédée, c'est d'un glauque, et en même temps, tu te retrouves à le fredonner alors qu'il dit les pires trucs dans les paroles. C'est quand même un sacré tour de force que le groupe réussit avec Season in the Abyss. En fait, on arrive là pour eux, ils sont au top du top. Et il y a eu quoi ? Il y a eu 4 albums en fait. 4 albums. On pourrait dire qu'ils ont tout dit. Donc, qu'arrive-t-il par la suite de cet album ? Donc, alors, bien entendu, hein, c'est les grosses tournées, hein, les Monsters of Rock, Donington, etc. On décide de célébrer tout ça avec le double live, bah, sur lequel j'avais mis la main, moi, à l'époque, qui est Decade of Aggression, hein, qui est, bon, en tout cas, j'ai jamais été partisan des, comment dire, des lives audio. Ça m'a toujours fait chier un peu, parce que le son est toujours légèrement en dessous. Je préfère limite me goinfrer un live En vidéo, parce que du coup, tu as l'image, donc tu peux voir un petit peu sur scène, etc. Mais pour moi, celui-là, de ces lives sur CD, ben, font partie des meilleurs lives qu'on peut s'écouter. Voilà, donc le son est au top. C'est bien masterisé. C'est un must-have, hein, pour tout fan de la discographie de Slayer. Donc, on est en 91. Et on se demande, quelque part, bah, c'est quoi la suite pour le groupe ? Est-ce qu'on va de nouveau ralentir le tempo ? Est-ce qu'on va refaire le même album ? Donc, la question se pose. Et c'est en 92 qu'on récupère le groupe, non pas avec un album, mais avec le début des problèmes. Alors, c'est quoi les problèmes ? Donc, on a bien compris que les gazis, ils sont pas là pour rigoler. Donc, quand on envoie une musique aussi violente et aussi énergique, faut pas s'imaginer que les quatre se réunissent autour d'un feu, font cœur des chamallows et chantent Kumbaya. Non, c'est pas ça. Donc très rapidement, ça se prend la tête en coulisses. Et Lombardo, le Dave Lombardo, il quitte le groupe. Voilà. C'est quand même chaud patate, hein, parce que c'est quand même l'un des meilleurs batteurs à l'époque. Et aujourd'hui, on peut clairement le dire, c'est l'un des meilleurs batteurs de métal, toujours confondu. Donc, perdre un batteur comme ça, sur un genre aussi vivace que le thrash metal, ça va être compliqué. Donc c'est dès 92 que Lombardo quitte le groupe, et il commence à se lancer dans ses multiples projets, voilà, un peu à l'image d'un Mike Patton. Hein. Donc, ça commencera avec le groupe Grip Incorporated, et puis très rapidement, forcément, quand t'as un batteur qui monte un million de groupes, il ne peut que rejoindre un chanteur qui monte un million de groupes, hein, et va faire équipe avec Mike Patton, donc ils vont devenir copains comme cochons, c'est pour ça qu'on va les retrouver à la tête de Fantomas, et puis plus récemment Dead Cross, sur le renouveau de Mr. Bungle, d'ailleurs renouveau dans le thrash metal, je l'avais déjà chroniqué ici, quel album putain de merde, et il deviendra aussi le batteur du thrash punk crossover, vous mettez tout ce que vous voulez, qui est Suicidal Tendencies, voilà, groupe aussi que je me cognerai ici même, bien entendu. Donc, très rapidement, il recrute le batteur Paul Bostaff, qui à l'époque, voilà, dans les canards qu'on pouvait lire, hein, on avait lu quand même, c'était pas très engageant quand même, dans des Hard Force ou quoi, que le mec était un sacré batteur de jazz. Voilà. Puis il avait un petit groupe aussi de métal qui n'était pas plus connu que ça. Hein. Donc on avait des questions à se poser. Okay. Comme le dirait un pauvre type des réseaux sociaux, la question est vite répondue. C'est l'album Divine Intervention qui met tout le monde d'accord. Enfin, en tout cas, moi, ça me met d'accord. Hein. Donc, 10 titres, 37 minutes. Voilà. Et c'est l'occasion, c'est un peu la rupture, on est dans la deuxième période, hein, que je qualifierais de la période de l'évolution sonore de Slayer vers quelque chose de plus proche de leur racine hardcore, un son plus massif, et c'est aussi une période où on a déjà les germes en fait du néo-métal, hein, donc ces germes-là, si vous les cherchez, elles sont dans l'album Angel Dust de Faith No More, et dans celui qui viendra derrière, King for a Day, Fool for a Lifetime, et c'est aussi l'année où sort le premier effort de Korn. Donc, alors, bien entendu, Slayer n'enfile pas des joggings, et ne supprime pas ses solos. Je dis juste qu'il muscle le game. Et ce qu'on avait pu noter sur Season in the Abyss, cette espèce de groove typique power metal qu'on pouvait retrouver chez Pantera, chez Slayer, ça groove plutôt bien dans Divine Intervention. J'aime bien cette vibe qu'a cet album-là. Donc c'est hyper violent, c'est super massif, c'est sans concession. Voilà. Et je trouve qu'il y a une originalité dans les structures, c'est-à-dire que quand ça break, ben ça break comme le peut le faire par exemple un Suicidal, c'est-à-dire que le morceau commence d'une certaine manière et part dans une direction très très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut noter sur ces particularités ? Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des morceaux très rapides, et moi je vous le dis, hein, c'est les morceaux les plus rapides de leur discographie. Sex, Murder, Heart et D2Head, surtout D2Head, c'est très très rapide. Putain de merde, j'allais dire putain madré. Ça envoie sévère. Et à côté de ça, on va reprendre des structures type progressives comme on avait dans Hell Awaits et les marier avec cette espèce de trash crossover façon suicidale qui sont Killing Fields, Circle of Belief, SS3 et 213 qui a un groove, ça groove en diable sur 213, j'adore ce morceau, notamment dans sa partie centrale hein, quand ça break dans l'autre sens. Moi pour moi, et ça n'engage que moi, moi je trouve que c'est un nouveau chef-d'œuvre. Voilà, donc pour moi, le départ de Dave Lombardo est plutôt bien géré, et d'autant plus qu'on est parti dans une autre direction. Donc pour le coup, moi je trouve que c'est plutôt cool, et bizarrement, les gens n'aiment pas. Voilà. Donc on continue en 96, donc 2 ans plus tard, à creuser un petit peu la césure avec la fanbase, voilà, donc cette base de fans qui sont là depuis le début, et ce disque a fait couler beaucoup d'encre, alors que je l'adore, c'est cet hommage au hardcore des années 80, voilà, qui est Undisputed Attitude, voilà, c'est 14 titres pour 33 minutes, et c'est beaucoup de reprises de cette scène, notamment des morceaux de Black Flag, de Minor Threat. Putain, ils le font bien, hein. Ils le font bien, parce que déjà, c'est énervé. Hein. Déjà, je vous conseille un docu qui était sur Netflix, et qui doit être disponible quelque part ailleurs, j'ai pas remis la main dessus, qui est American Hardcore, qui est tout sur cette scène menée par Henry Rollins, Black Flag, Minor Threat. Il y a vraiment... une énergie dans les prestations live de ces groupes qui pour la plupart n'ont pas sorti d'album en fait. C'était beaucoup de démos qui tournaient, il n'y a que quelques groupes, hein, ceux que j'ai notés, hein, Minor Threat et Black Flag, qui sortent des albums. Les autres, c'est beaucoup de la démo, ça tiendra que 1 ou 2 ans le groupe, et ça dit ce que ça a à dire et puis ça repart. C'est le mouvement Straight Edge aussi, voilà, qu'on peut retrouver. Voilà, c'est vraiment des racines qu'on a dans le trash metal, dans l'émergence du trash au début des années 80. Et effectivement, moi je trouve que c'est un album génial. C'était un album à faire, et il fallait oser le faire. Je vois pas pourquoi Slayer, on devrait lui taper sur la gueule parce qu'il fait un disputé d'attitude, alors que Metallica va faire les Garage Days et les Garage Days Revisited, qu'ils ont Jason Newsted. Donc je pense que c'est une bonne idée. Moi, l'album, je l'écoute souvent, surtout quand je suis énervé. C'est des titres de 2 minutes et qui break complètement au bout d'une minute. Je sais pas si vous imaginez le tour de force. Et c'est énervé et le Araya hurle dans tous les sens. Voilà, il est en mode cri façon Angel of Death pendant tout l'album, donc pour moi c'est voilà, je considère pas ça comme un album officiel du groupe, mais en tout cas ça démérite pas et c'est top. C'est vraiment en tout cas moi pour ma part, avec l'album suivant qu'il va y avoir en tout cas moi notamment vis-à-vis de Slayer, une petite césure. Donc cet album dont je vous parle, c'est le Diabolus in Musica, donc 11 titres 40 minutes, qui débarque en 98. Pourtant la pochette est top. Et ben là j'ai envie de me mettre des gifles. Ben je l'ai pas aimé en fait cet album à l'époque. Alors que depuis quelques années, je l'ai réévalué largement à la hausse et en fait il est top. Je sais pas. Je pense que c'était aussi tout le Capharnaüm musical. En fait, on va pas se mentir. Fin des années 90, il y avait trop d'albums. C'était l'émergence du néo qui commençait à s'installer, donc il y en avait beaucoup qui avaient basculé dans le néo. Et en fait, à force d'écouter trop de néo à cette époque, on a cru qu'en fait Slayer faisait du néo-métal. Ils faisaient pas du néo-métal. Ils ont juste fait évoluer la formule qu'il y avait dans Divine Intervention dans une autre direction. Et comme on est jeune et con, et ben, on a considéré que Slayer s'était vendu, alors que pas du tout. Voilà. Donc je suis vraiment assez peiné de me dire que je suis passé à côté de cet album à l'époque. alors qu'il était top. Bon, en même temps, si je l'avais acheté, ça n'aurait pas changé grand-chose à la donne. Mais voilà, je vous le dis, j'ai honte d'avoir regardé de haut cet album, parce que plus je l'écoute actuellement, et plus je trouve qu'il y a un énorme travail sur la voix d'Araya qui passe d'un genre à un autre. Il fait passer des choses à l'intérieur, les sonorités aussi évoluent, et on doit cet album, j'allais dire à ce fils de pute de Jeff Hanneman, mais on n'en est pas loin, c'est lui qui est à l'origine en fait de l'évolution de sonore de cet album, et il y a une vraie proposition. Donc à noter sur les titres les plus originaux de cet album, Stain of Mind, In the Name of God et Scrum, voilà, qui sont quand même des pépites. Et à noter aussi, et ça je tiens à le saluer, parce que ça fait, on est quand même déjà sur pas mal d'albums du groupe, Slayer s'est toujours signé ses entrées. Leur premier titre, c'est toujours du caviar, avec cette espèce de montée, jusqu'au dernier album, hein, jusqu'à Repentless. Et Bitter Peace, voilà, sur cet album, ne déroge pas à la règle. Donc voilà, donc, pour les rageux et les rageuses, Diabolis in Musica, c'est un album sur lequel il faut se pencher à nouveau, parce que c'est un album qui est méritant, voilà, qui a été boudé à l'époque. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, qui a une super pochette. Les titres sont top, les compos, d'ailleurs, se réécoutent facilement. Voilà, c'est un album qui livre ses secrets au fur et à mesure, donc j'ai envie de dire, c'est presque du prog, hein, quelque part. Si on réfléchit dans cette notion de réécouter, de trouver des sonorités, etc. Donc oui, c'est très différent de ce qu'on pouvait avoir sur Season in the Abyss et Rain in Blood, mais différent ne veut pas dire moins bon. Voilà, donc c'est une nouvelle proposition, et je trouve que dans tous ces groupes qui ont essayé d'évoluer dans leur son à la fin des années 90, eh ben, je pense que c'est Slayer qui s'en est mieux sorti, je parle en termes de son. Voilà. Contrairement à Metallica qui avec les Load et Reload, bah pour moi de toute manière, alors c'est pas des albums de vendus entre guillemets où la major n'aura pas demandé de calmer le tempo, non, Metallica a fait sa sauce tout seul avec Load et Reload, mais c'est quand même des albums de merde, voilà, donc on va pas se mentir, voilà, donc c'est pas des albums, voilà. Un autre groupe qui s'appellerait autrement que Metallica aurait fait ces albums-là, à la rigueur, bon, t'aurais classifié ça dans un effort de hard rock, rock un peu énervé, plutôt sympa, voilà. Mais quand t'as fait la triplette ou la quadruplette du début des années 80 et que t'as créé un mouvement qui était le trash, non, faire Load et Reload et la suite, je suis désolé, voilà, et même le dernier. Hein. Le dernier, j'ai écouté les deux titres, 72 seasons là, bon ok, bon, il y a une pochette, il y a une recherche, bon t'as l'impression qu'on essaye de justifier un petit peu toute l'idée derrière, mais quand je l'écoute, j'écoute vraiment un truc sans âme en fait. Voilà, c'est malheureux, hein. Y a des titres comme ça de Maiden, hein, qui sont sans âme aussi, hein. Donc il y a vraiment une recette, ça se... Voilà, c'est poussif, voilà, et c'est poussif depuis un moment donné, hein. C'est pour ça que moi, avec Metallica, j'arrête de me faire baiser la gueule, hein. Je m'étais fait baiser la gueule avec Death Magnetic, je me suis fait rebaiser la gueule avec Hardwired de Self-Destruct, bon là, je me ferai pas baiser la gueule, c'est bon. Les titres que t'écoutes un single, là, tu dis ça va être top, et t'écoutes l'album, c'est trop long, trop chiant, et voilà, bon, stop, voilà. Donc c'est pour ça que, voilà, je profite de ce podcast aussi pour dire les choses, voilà, d'être le plus honnête possible. Dans ce pivotement esthétique, Slayer est resté fidèle à lui-même et a proposé une formule qui était intéressante. Voilà. Donc, et les gens l'ont tapé dessus pour de mauvaises raisons. Voilà. Ben là, il n'y aura pas d'extrait pour l'album suivant parce que ben, je ne l'aime pas celui-là. Ouais, j'ai essayé de l'aimer, hein, je l'aime pas. Alors, c'est pas qu'il est mauvais. Hein. Pour certains, c'est même un très très bon album, même l'un des meilleurs de cette période-là. Mais j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas parce qu'il me fait l'effet d'une succession de titres mid-tempo. J'ai l'impression que le niveau est toujours le même. Et vu que j'ai pas accroché sur les premiers titres, et ben j'arrive pas sur la suite de l'album. Peut-être qu'un jour, je m'excuserai ici même en disant que voilà, je n'ai pas compris ce God Hates Us All, mais j'ai essayé et il n'y a rien à faire. Celui-là, je le kiffe pas. Et c'est pour ça que voilà, je le rangerai plutôt du côté d'un South of Heaven, voilà, pour moi, c'est-à-dire voilà, un album qui me plaît pas. Ça veut pas dire que c'est naze, hein, ça veut pas dire que c'est de la merde. Hein. Alors, de toute façon, qui suis-je pour dire que c'est de la merde, si ce n'est un auditeur, hein, comme vous. Mais celui-là me plaît pas. Voilà, je sais pas, j'ai l'impression dans ce style-là que c'est, enfin, dans ce côté massif, c'est peut-être l'album de trop. On a poussé un petit peu trop les potards dans un sens. Bon, il fait 13 titres, 42 minutes, et en plus, il n'y a pas de chance cet album, parce qu'il débarque le 11 septembre 2001. Voilà, donc après le jour de l'attentat terroriste, voilà, sur les tours jumelles. Donc autant vous dire que l'album passe sous les radars. Bon, pour certains, c'est une injustice, je peux l'entendre, voilà. En tout cas, même malgré tout ça, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Et c'est là qu'on va opérer le pivotement au niveau de ce podcast rétrospectif sur Slayer, et bien sur la troisième partie de leur carrière. Les premières notes, voilà, de cette nouvelle période. Alors c'est très drôle, c'est-à-dire que on considérait jusqu'à présent que Paul Bostaph était le remplaçant de Dave Lombardo. Et ben Paul Bostaph se barre, et qui c'est qui le remplace? Et ben Dave Lombardo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le remplaçant du remplaçant. Non, mais c'est quand même ouf cette histoire. Donc, et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on pourra considérer que Slayer a deux batteurs, entre guillemets. Voilà. Donc, Bostaph se casse. Voilà. Et, alors pas pour des raisons, pas parce qu'il s'est pris la tête, c'est parce qu'il veut tester d'autres choses musicalement, et il est remplacé par Lombardo. Donc c'est pas un retour de Lombardo qui pousse Paul Bostaph, hein. Moi je pense souvent à ce genre d'anecdote, à l'histoire d'Anthrax, hein, d'un chanteur qui remplace un autre, l'autre décide de revenir et puis il dégage l'ancien, le nouveau qui était arrivé. Non, c'est pas ça, hein. C'est vraiment, il y en a un qui se barre, et qui se propose de le remplacer, ben Dave Lombardo, le mec qui s'était barré avant. Donc, pourquoi pas, voilà. Et du coup, forcément, retour de Lombardo, mauvais accueil de, parce qu'on va pas se mentir, hein, Divine Intervention, Diabo et Sin Musica et God Hate Us All, c'est pas des bons coups pour Slayer, c'est pas déshonorant en termes de vente, mais c'est quand même pas des bons coups. Les fans qui commencent à dire « Eh, c'était mieux avant !» Voilà, ouais, parce qu'il y a ça aussi, hein, voilà. « On me fait avant c'était bien !» Voilà, donc du coup, à force de dire qu'avant c'était bien, et ben ils cèdent aux sirènes de refaire comme avant, et ça prend la forme de Christ Illusion. Donc, bon, alors, on revient aux affaires. Donc, il faut savoir que là, la pochette, elle a changé entre-temps, parce que bah, forcément, là, ça y va, ça dessoude toutes les religions, hein, on se fait plaisir, hein, voilà, même si ça s'appelle Christ Illusion, ça tape aussi dans l'islam et tout ça, hein, quitte à y être, hein. Donc forcément, déjà, ça crée une polémique au niveau de la pochette, on la change, voilà, et du coup, 10 titres, bon, une grosse demi-heure de musique, il n'y a rien acheté, et puis ça fait plaisir, hein. Flashstorm, Catalyst, Jihad, hein, parce que c'est bien aussi, parce que Slayer répond à une question, et si on faisait une chanson, mais du point de vue du djihadiste, ce qui a dû faire plaisir aux Américains à l'époque, rappelez-vous que les mecs, leur album, il passe sous les radars à cause des attentats du 11 septembre, et groupe américain oblige, ils auraient pu faire un truc, anti-Moyen-Orient, non, eux font un titre du point de vue du djihadiste qui va se faire exploser. C'est top, ça s'appelle Jihad, c'est un très bon titre d'ailleurs. Black Serenade et Catatonic, pour les titres que je retiens. Bon, ben voilà, ça remet tout le monde d'accord. Voilà, on revient sur des sonorités qui, alors, on conserve bien entendu une prod actuelle, on est en 2006, on est toujours chez Rick Rubin, hein, voilà, mais ça tape un petit peu dans les sonorités qu'on avait sur un Rain in Blood et sur un Season in the Abyss. Il y a de la mélodie, il y a de la rapidité, on s'emmerde pas, voilà. C'est un petit peu, comment dire, quand t'invites tes potes et que t'es ado et que tes parents sont pas là et qu'on met la musique à fond et qu'on pète un peu tout ce qu'il y a dans le salon. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, il révolutionne rien, mais c'est déjà un album qui fait plaisir. Voilà, et moi c'est plutôt avec le temps que j'ai commencé à apprécier ben, l'album qui suit après. Oui, j'avais envie de vous mettre une déflagration sonore et ça me démangeait, donc voilà. Et ben, cet album qui arrive très rapidement, parce que en fait, Slayer, quand c'est à peu près inspiré, qui sentent un peu le filon, c'est des albums qui arrivent tous les 2-3 ans. Quand on est un peu dans le dur, ça met 4-5 ans pour sortir un album. Voilà, c'est ce qui se passe entre Season in the Abyss à peu près et Divine Intervention. Et ben, en fait, ce World Painted Blood, moi je l'aime bien parce que il est malin comme album. C'est-à-dire qu'il ressemble au précédent, mais au final. On a toujours Dave Lombardo au fût, mais finalement, on incorpore de manière très maligne les expérimentations de l'ère Divine Intervention, Diablo Is In Musica et God Hate Us All. Donc en fait, c'est un bon compromis. Donc pour moi, c'est aussi, alors je dirais pas chef-d'œuvre, mais c'est aussi une pépite. Voilà. Ben, les quelques notes que je vous ai mis, ben, c'est un de mes titres préférés, Psychopathy Red. Putain, c'est là, ça se pose là, et puis ça fait pas semblant. Mais il y a beaucoup d'expérimentations vocales et même au niveau des changements dans les lignes des breaks, etc., qui sont plutôt cool. Donc moi, je retiens. Alors, il est homogène. Alors, il est à la fois homogène et hétérogène. Vous avez compris que il a un peu le cul entre deux chaises, cet album. Mais ce que je retiens, c'est le Psychopathy Red, Eight World Ride et World Painted Blood. Donc, ils sont plutôt cool. Voilà. Donc, déjà dans leur structure. Mais c'est un album. Il a l'air de rien. La pochette est simpliste. Ça vient très rapidement après Christine du Jeune et on pourrait croire que c'est un décalque. Et ben, ça l'est pas. Voilà. Donc, c'est plutôt top. Donc, on est en droit de se dire que on a un Slayer qui est reparti sur des bonnes bases. Eh ben, quelle va être la suite ? Eh ben, la suite, c'est de nouveau les problèmes. Et les problèmes ont deux temporalités. Donc, alors la première, on va pas se mentir. Pour ceux et celles qui ont suivi un peu le groupe en live, hein, n'oubliez pas qu'on est dans les années 2000, donc on a déjà Internet, donc c'est plus facile de se procurer des clips, de suivre un petit peu le groupe sur YouTube, etc. Et puis on se rend compte, en fait, que là où Kerry King est de plus en plus chauve, de plus en plus tatoué, et fait de plus en plus de muscu en bouffant des hamburgers, donc il devient de plus en plus massif, que Araya a la barbe qui se blanchit, voilà, et bien de l'autre côté, on a un Jeff Hatman qui devient de plus en plus bouffi. Et ce côté bouffi-bouffon, voilà, et j'ai envie de vous dire, c'est parce que le mec, il taquine un peu trop la bibine, voilà. Donc, alors, l'alcool et la drogue dans le milieu du métal. Bon, c'est un peu une histoire d'amour, le truc, hein. Donc, on va prendre les groupes de l'époque, hein. Donc, bon, déjà, chez Metallica, les trois quarts sont camés, notamment... le mec, il y va fort. Notamment le James Hetfield, hein. Le James Hetfield qui voilà, bah, lui, pourquoi il est camé, James Hetfield ? Alors, déjà, il est à moitié alcoolique et aussi camé. C'est que le mec n'a jamais été en accord avec sa posture. C'est-à-dire que pour être la devanture du groupe, parce que le mec est un grand timide, il était obligé de se mettre la race pour pouvoir être au top. Voilà, donc déjà on a ce côté-là. De l'autre côté, tiens, on va prendre Pantera. Donc où on a un Phil Anselmo, bon, déjà qui a une enfance au pire, qui lui, de toute façon, n'hésite pas... alors, on va passer sur ses... On va dire sur ces moments un peu antisémites en soirée, hein, qui mettent toujours bien façon Mel Gibson. Voilà, donc, mais le Phil Anselmo, bon, il a un peu une enfance un peu compliquée à coups de ceinture du père. Et je vis un peu chez les uns et les autres, et je fais un peu des bastons dans les bars. Voilà, donc, le Anselmo, donc déjà, il carbure à l'alcool et à la drogue, et surtout à cause de problèmes de dos, parce qu'il se pète le dos dans les concerts à faire Nawak. Donc voilà, déjà, on a ça aussi. Et puis chez Pantera, on a Rex aussi. Voilà, je vous conseille le livre, hein. Qui a écrit le bassiste Rex sur l'histoire de Pantera, quand vous voyez les hectolitres de whisky pur et de vodka et de rhum qui s'envoient, les mecs. Tu te demandes comment ils tiennent debout, hein, et comment ils arrivent à envoyer du son. Hein. Voilà, donc du coup, du côté de chez Slayer, faut pas s'imaginer que ça se passe pas autrement. Voilà. C'est pas des enfants de cœur. Donc le Hanneman, ou sa grande passion, c'est l'Allemagne nazie, les tueurs en série, et du coup la bibine, bon, ça commence à se voir sur sa gueule. Voilà. Donc déjà, et ce que j'ai bien aimé quand même, c'est que le groupe a plutôt bien géré la crise. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt commencé à communiquer nickel, voilà, en disant... Ils ont profité, parce que ça, c'est super. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec est plus capable d'être sur scène. Donc, on va prendre une anecdote qui est que, bah, en fait, il s'est fait piquer par un insecte. Voilà. Et que ça lui a fait une blessure nécrosante et qu'on est très, très inquiet. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'à l'époque, il y a la double information. C'est-à-dire que tu sais que le mec est alcoolo, mais s'il est au plus mal, ça colle de la piqûre d'insecte. Bon, tu commences à comprendre que c'est un peu du grand n'importe quoi. Donc tout ça va retarder la sortie imminente d'un album où il y a déjà des compos. Voilà. Mais bon, t'as compris que le Hanneman, il est plus en état de composer. Donc va falloir trouver une solution. Et il faut que le groupe continue à tourner. Donc c'est là qu'on fait appel à un copain de la famille, parce que la famille Trash, voilà, c'était aussi une grande famille, on a aussi des groupes qui n'ont jamais vraiment eu la carrière qu'ils méritaient. On pense notamment à Exodus et Death Angels. Death Angel, il n'y a pas plusieurs anges de la mort. Donc du coup, on va recruter Gary Holt à la guitare, qui est le gratteux principal d'Exodus, et qui fait très bien le remplacement, notamment en live. Hein. Et un problème en amenant un autre, du coup, eh ben c'est rebelote, on se prend la tête avec le Dave. Voilà. Mais de toute façon, je pense qu'il doit y avoir un truc avec les Dave dans le métal, hein, parce que le Dave Mustaine, faut se le farcir, et apparemment, le Dave Lombardo, faut aussi se le farcir. Voilà. Et c'est pas étonnant que le mec, le Dave Lombardo, le seul qui puisse le comprendre, c'est Mike Patton, qui est le mec aussi, t'arrives pas à le tenir dans une pièce. Le mec, dès qu'il a 5 minutes, faut qu'il monte un groupe, puis pourra pas rester en place. Donc voilà, donc pour vous donner une idée, on est en 2013, donc début 2013, ben, Dave Lombardo claque la porte. Voilà, donc le remplaçant du remplaçant, si vous suivez toujours, claque la porte. Donc, d'après vous, qui c'est qui revient? Ben, retour de Paul Mostaff, voilà, donc voilà, donc c'était le mec doit être derrière la porte, à attendre la lumière et à gratter, voilà, donc voilà, Mostaff revient, et le 2 mai 2013, eh ben, Jeff Hanneman meurt, voilà, mais il meurt pas de la piqûre d'araignée, mais d'une cirrhose. Voilà, donc c'est... Alors, c'est pas drôle, l'histoire n'est pas drôle, on est d'accord, mais bon, voilà... Le mec qui est au mal par une piqûre d'araignée meurt d'une cirrhose. Voilà, vous avez compris. Et ben en fait, ils ont plutôt bien géré ce truc-là, hein, parce que Gary Holt était déjà en place sur les dates de tournée. Et c'est là qu'on commence à récupérer... Ben en fait, moi, je vais pas vous mentir, hein, le Hanneman, à mon grand regret, je l'ai jamais vu en live. Hein. Moi, j'ai commencé à récupérer, à avoir le Slayer avec Gary Holt et Mostaff à la batterie. Hein. Donc, c'est ceux qu'il y avait au Hellfest. Donc, voilà. Donc, les dates sur les années 2015, 2016 et jusqu'en 2019. Donc voilà. Donc, j'ai pu voir ce magnifique... ce magnifique drapeau Heineken revisité avec Hanneman, voilà, donc à la place du mot Heineken en hommage à lui, donc bon, en même temps, voilà, le groupe n'est pas dupe, c'est une espèce d'humour, hein, d'humour noir sur le truc, donc bon, j'ai envie de dire, Hanneman, bon, ben, t'es mort comme t'as vécu, quelque part, mais voilà, on te rend hommage, hein, parce que tu as égayé nos oreilles d'une violence inouïe de paroles pas piquées des hannetons, voilà. Donc voilà, peut-être que sans lui, Slayer ne serait pas ce qu'il est. Voilà, ne serait pas aussi poisseux, aussi sale et aussi glauque dans les sujets et dans les textes, hein, parce que c'est à lui qu'on doit le Angel of Death, hein, voilà, qui était le surnom dans les camps du Dr. Mengele. Donc vous voyez, on est sur du lourd, hein, pour 2024, hein, quand on parle d'un groupe comme Slayer. Donc voilà, mort de Hanneman, et bah, très, il faudra 2 ans. Donc voilà, c'est le plus gros temps de battement entre la sortie de 2 albums. Donc il faudra attendre 2015, donc 6 ans après World Painted Blood, pour avoir un nouvel effort de Slayer en termes de discographie. Et bien, comme on peut le voir, plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Hein. Donc, un titre de Slayer ressemble à un autre titre de Slayer. Donc, c'est lourd, c'est massif. Voilà, donc là, c'était un des titres d'ouverture, le titre éponyme hein, d'album hein, Repentless. Ben, j'ai envie de vous dire, moi, c'est ce que j'ai marqué sur mes notes. Comment on pourrait appeler cet album ? Ben, c'est un maxi best-of. Voilà, donc on peut le voir comme ça. Et il ressemble un peu au Reinventing the Steel de Pantera aussi, hein, voilà, qui a la gueule d'un maxi best-of et qui est aussi un album posthume, hein, quelque part. Hein. Donc, sauf que pour Repentless, on ne le savait pas. Voilà, donc 12 morceaux, pas forcément le plus court des albums, pas forcément le plus long, 42 minutes. Voilà, album en forme de maxi best-of. Donc on a tout dedans, on a tout, la période mélodique, la période moderne, l'ancienne période, le son massif. Donc voilà, il y a tout ce qu'on aime dans Slayer à l'intérieur. Donc dans les titres que moi j'ai pu noter, bon, mais celui que je viens de mettre, Repentless, Chasing Death, Implode, You Against You. Et puis on sent aussi qu'il y a une volonté au niveau de la prod de mettre les petits plats dans les grands, parce que même les clips, c'est quasiment des petits courts-métrages. Voilà, donc à noter la qualité des clips et des courts-métrages très influencés, polar, horreur, serial killer, ça se passe dans des prisons. On a même Danny Trejo, dites-moi, dans ces clips-là. Et un Tom Araya qui a opéré sa reconversion en papy du trash. Donc le mec a pris un coup de vieux avec sa barbe. On dirait, si c'est pas le Père Noël, c'est au moins le Père Fouettard. Voilà. Donc voilà, c'était une grosse beubare blanche, espèce de... On dirait ton grand-père qui fait du trash. Donc voilà. Donc un album qui ne démérite pas. Et qui sera soutenu sur scène bah, par cette nouvelle formation Slayer, qui est du coup ce qu'on pourrait considérer comme la définitive, hein, jusqu'à le départ de Paul Bostaff, par remplacement par Dave Lombardo, on n'est jamais à l'abri de ça. Hein. Mais bon, voilà, Kerry King à la manœuvre, Araya au chant et à la basse, Gary Holt en soutien, et Bostaff pour tenir tout ça debout. Voilà. Donc on est alors très rapidement on annonce des nouveaux morceaux hein, comme c'est souvent le cas chez Slayer à peu près un an et demi après la sortie d'un album, et là la grande surprise de tout le monde en 2018, le groupe annonce sa tournée d'adieu et donc une séparation dans la foulée. C'est un peu en choc et en même temps pas tellement. Alors pourquoi un choc et pas tellement un choc ? Ben parce que, la question qu'il faut se poser, c'est-à-dire que là, on est sur un groupe qui a 40 ans de carrière, quasiment. Hein. Ils ont commencé ça avant leur vingtaine, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui vont arriver à la soixantaine. Maintenir un tel niveau d'exigence sur une exécution aussi rapide des morceaux, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc je vais pas vous mentir, le mec va raconter un peu sa vie. Moi je me suis lancé des défis, je m'étais jamais mis à la musique, moi j'ai décidé de me mettre à la guitare, voilà, et notamment au métal, et notamment au thrash, voilà, c'est mon envie. Donc moi j'ai 40 ans, je vois ce que ça donne comme niveau, je suis un débutant, donc je vous laisse imaginer les gaziers qui font ça depuis 40 piges. Donc garder ce niveau d'énergie, et c'est le niveau de hargne, hein, parce que pour monter sur scène et envoyer ce qu'ils envoient, faut être énervé quand même, hein. Voilà, faut se maintenir dans un niveau d'énervement. Et je pense aussi que c'est cette envie de partir au sommet et pas faire des mauvais albums et avoir des prestations scéniques moisies. Hein. On peut citer plein de groupes qui sont en perpétuelle tournée d'adieu depuis 30 ans. Black Sabbath, Judas Priest, voilà, les papis du métal. Donc bon, moi je l'avais pas dit ici même, ou peut-être je m'en rappelle plus, mais en tout cas, moi quand je suis à Hellfest, et que Judas Priest va rentrer sur scène, que je vois tout le groupe, que ça commence à jouer, et que j'entends la voix de Rob Halford, mais qu'il n'est pas sur scène, je me dis, bon, d'habitude, le mec arrive en moto, donc je vous laisse imaginer, hein, voilà. Donc il est en train de temporiser, et qu'en fait, tu te rends compte que le mec, il arrive en déambulateur, ce que je vous dis, c'est vrai, hein, c'était un déambulateur, et qu'il a mis tout le titre avant de se positionner sur scène, t'as envie de dire, bon gars, faut arrêter. Voilà, à un moment donné, faut arrêter. Voilà, parce que là, bon, le déambulateur sur scène, on va parler aussi, d'ACDC avec les gens qui meurent et qui sont déments, l'autre qui perd l'audition, remplacé par un Axl Rose, le pied dans le plâtre, voilà, qui chante comme ça. Bon, les gars, Là, c'est un peu du grand n'importe quoi, on n'est pas au cirque, vous voyez ce que je veux dire. Donc, au bout d'un moment, tu te poses la question, si c'est pour le goût de la musique ou si c'est pour la thune, que ces gens-là, ils continuent à tourner. Voilà, posez-vous la question de Guns N' Roses, hein. Voilà. Donc voilà, donc c'est un vrai questionnement, en tout cas, de ce qu'il avait été dit à l'époque. Bon, tout le monde n'était pas d'accord, mais ils ont respecté la volonté, c'est une volonté qui vient de Tom Araya, à la base. Voilà. Donc de vouloir se... Bon, c'est toujours les notions qui sont toujours les mêmes, hein, de vouloir se concentrer sur sa famille. Dave Lombardo, quand il est parti de multiples fois, il avait dit ça aussi, d'être plus proche de sa femme. Bon, tu sais que c'est toujours des conneries, dans le sens où Dave Lombardo, plus proche de sa femme, le mec il quitte un groupe pour en monter 15. Donc c'était pas les tournées de Slayer, le problème. Donc voilà, c'est autre chose. Donc là, c'est pareil. Araya, le vrai problème, c'est de se dire, bon voilà, j'ai un peu l'impression d'être un papy du métal. Est-ce que c'est honnête et est-ce que je serais en capacité de me maintenir ce niveau ? Voilà. Mustaine s'était posé la question aussi. Donc il avait argumenté, rappelez-vous, hein, son truc, oui, Megadeth, ça s'arrête, je me suis fait opérer de la main, je sais pas quoi, on va pas tenir le niveau. Et puis après, le mec, il revient 2 ans après, ah, ça va mieux, je tiens tout. Et le mec, il te fait une palanquée d'albums. De toute façon, Megadeth, c'est pas compliqué. Hein. Du moment où Dave Mustaine, il a arrêté de se droguer, c'est là qu'ils ont fait des albums de merde. Voilà, allez hop, pépitas. J'ai pas dit qu'il fallait se droguer pour faire des bons albums, je dis juste c'est un constat. Donc le mec, du moment qu'il a tout arrêté et qui est tombé presque vegan et écolo-responsable, voilà, donc du coup il fait des albums de merde. Voilà. Donc bon, bref. Ça s'arrête. Donc officiellement, moi de ce que j'ai pu noter, leur dernière date en France, à ce moment-là, dernier concert, c'est au Hellfest 2019. Et on va prendre quelques minutes pour en parler. Parce que moi, là, je parlerai aussi de la dernière actu du groupe depuis quelques jours. Donc, depuis quelques jours, on va dire que la webosphère s'affole. Et tout le monde y va de son 20 minutes ou 30 minutes de vidéo sur YouTube pour surfer sur l'algorithme, mais d'avoir pas grand-chose à dire. Mais par contre, j'ai pu noter que dans toutes ces vidéos, dans tous les écrits, dans toutes les news postées, dans tous ces billets de blog ou autre chose, à chaque fois, il est noté que oui, le groupe avait quitté tout le monde en 2019 sous les applaudissements et que les gens s'étaient déplacés. Bon, moi, je vais vous donner une autre version, je suis désolé. Moi, j'ai vu ce concert au Hellfest 2019, voilà, et là, je vous dis, moi, j'ai pas fait qu'un Hellfest, voilà, j'en ai fait 6, voilà, et qui se sont échelonnés de 2010 à 2019, et j'ai vu l'évolution du Hellfest, et sans vous mentir, c'est peut-être aussi pour ça, c'est pas à cause du Covid, que je ne suis pas retourné au Hellfest. Bon, parce que déjà aussi, ça coûte un rein, on va pas, voilà, un organe, mais surtout parce que le public a évolué, et je suis désolé de le dire, donc ça ira à l'encontre de ce que ces youtubeurs français ont dit, voilà, spécialisés soi-disant dans le métal, que non, j'ai été dégoûté du public qui était là ce soir-là pour le dernier concert de Slayer. Voilà, donc je sais pas, vous me partagerez ça pour ceux et celles qui écoutent. N'hésitez pas à me contacter en MP ou à commenter sur vos plateformes d'écoute en disant ça. Voilà, si vous avez ressenti le même truc. Je pense que sur toute la foule qu'il y avait, il y avait peut-être un tiers de vrais. De vrai, voilà, donc moi je me considère comme un vrai de vrai, dans le sens où j'ai pas besoin de me trimballer avec une veste à patch et me déguiser pour avoir l'esprit métal. Moi, j'ai les scuds, je les écoute depuis que j'ai 14 piges, voilà, donc voilà, j'ai pas découvert le groupe hier. Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, et je tiens à le dire, c'est que de manière globale, les deux tiers de la foule étaient honteuses. Donc, c'est-à-dire quand je me rappelle de ce moment, déjà, ils ont sorti un concert phénoménal à leur âge, comme ça, ils sont partis la tête haute sur ce concert-là, il y avait les flammes, le Kerry King était comme un fou, le Araya, c'était pareil. Et quand Araya exprime, parce que moi c'est ce moment-là en fait, hein, vraiment, c'est pour ça que je voulais faire un épisode sur Hellfest, pour dire à la fois en quoi c'était bien et en quoi ça m'avait déçu. Quand Araya, il prend quelques... Parce que le mec, c'est pas... Voilà, quelque part, c'est pas un poète, hein. Slayer, les concerts, c'est toujours super carré, il y a quelques mots, un peu comme les concerts de Megadeth, il y a quelques mots, ils déroulent leur truc et ciao. Et là, le mec, bon, il est un peu à l'émotion, et il explique que, c'est la dernière fois où il joue en France. Oh, le public le siffle. Et c'est pas des sifflements, entre guillemets, de dire « on est déçu ». Non, non, c'est des sifflements, genre presque « ferme ta gueule ». Et ça, moi j'étais là, j'étais outré. Voilà. Et quand je voyais tout ce qui déroulait, les titres qu'ils ont balancés et comment ils les ont sortis, que ce public-là, parce qu'on on va le dire, maintenant les deux tiers, voilà, c'est pas méchant, hein, donc bon, très bien, t'es content, tu viens au carnaval, t'es déguisé en Daffy Duck, etc., c'est le concert métal, voilà, maintenant le Hellfest a plus tendance à être ça, voilà, donc des meufs qui se trimballent en string et des mecs déguisés en canard ou en viking, donc bon, super, c'est cool, voilà, mais c'est devenu Disneyland, et effectivement, le public qu'il y avait ce soir-là, moi je tiens et je fais ce podcast-là aussi pour le dire, le public qui était là ce soir-là ne méritait pas cette prestation live en face, même si vous avez payé 300 balles pour votre week-end, voilà, vous ne savez pas ce que vous avez vu, voilà, vous êtes passé à côté, et en plus, vous avez, le comportement c'était de la merde, donc voilà, typiquement quand un groupe c'est sa tournée d'adieu et tout ça, et qu'il envoie ce qu'il a envoyé, parce que je suis désolé, hein, en 2019, il n'y a aucun groupe qui a envoyé comme Slayer a envoyé, j'ai même envie de vous dire, même les années précédentes, voilà, sur cette date-là qui a été faite, peut-être Maiden en main stage, voilà, il y a quelques groupes en main stage qui ont envoyé sur plusieurs éditions du Hellfest, mais ils ne sont pas nombreux, et c'est sûrement pas Slipknot, hein, tiens, petite dragée sur Slipknot en passant, mais voilà, voilà, et donc voilà, et ce soir-là, t'as un public de merde, donc là où tu devrais fermer ta gueule, ben voilà, donc tu, voilà, donc je tenais à le dire, en tout cas, donc voilà, ça, moi j'étais parti, je m'en rappelle ce soir là, c'est, ouais, je m'étais dit, c'est bon, je suis dégoûté, en tout cas le concert était top, j'étais content d'y être, mais dégoûté de ce que j'ai pu voir moi, noter à ce moment là voilà, et je m'en rappelle, hein, au début j'avais commencé dans le pit face scène, et après j'avais de plus en plus, j'avais reculé, et plus je reculais en fait, et plus j'étais avec du public de merde, voilà. Donc, et désolé cher auditeur, chère auditrice, si t'étais dans cette partie du public, mais c'est quand même un fait établi. Bon, donc voilà, donc ce groupe-là, bon, on va parler aussi sur l'héritage, hein. Bon, eh ben écoutez, on n'aurait pas tous les Municipal Waste et tous ces groupes assimilés de trash sans un groupe comme Slayer. Slayer, pour vous dire, on peut même retrouver des traces de Slayer dans la nouvelle version de Massisteria aujourd'hui. Ils ont musclé leur game, l'album Maniac, si on enlève la voix de Mousse au premier plan, c'est du Slayer en rythmique. Et le gratteux en chef de Massisteria ne s'en est jamais caché. Donc avec le temps, il y a beaucoup de groupes qui ont une rythmique à Slayer, et même toute la vague, comment s'appelle ce courant mené par Bring Me The Horizon au début là, voilà, metalcore, voilà, toute la vague de metalcore. Metalcore, c'est quoi? C'est des morceaux rapides à la Slayer avec un chant emo, hein, typique néo, hein, voilà, c'est ça. Donc tous les groupes d'aujourd'hui ont un tribut à payer. Voilà, donc le death, donc des courants complets de death, etc., ont un tribut à payer à Slayer. Donc ça, c'est une réalité. Donc voilà. Donc, bon, alors, quel est, bon, parce que ça, j'en ai parlé, hein, c'est une actu toute fraîche, hein, qui date d'il y a quelques jours. Hein. Moi, au départ, l'idée, c'était de parler de Slayer. Voilà, moi, je voulais revenir en force sur Metal Advisory et m'attaquer à du lourd et à poser un peu les bases de ce podcast-là pour 2024. Normalement, en termes d'actu, on ne devait avoir que le nouveau groupe de Kerry King, qui se base, bien entendu, parce que bon, pour ceux et celles qui ont écouté le single, bon, bah, c'est Slayer, hein. Mais ça s'appelle pas Slayer, mais bon, voilà, c'est Slayer. Donc, l'actu, ça devait être ça. Donc, la première actu, c'est quoi? Donc, c'est le nom du groupe de Kerry King qui s'appelle, je vous le donne en mille, Kerry King. Bon, on va pas lui en vouloir, Henry Rollins. Quand il fait son groupe, il appelle le Rollins Band. Bon, le Kerry Band, bon, c'est pas moyen. Le King Band, c'est moyen. Bon, double K à Kerry King, bon, c'est pas original, c'est pas non plus scandaleux. Retaliate. I can't believe what I le visuel est hyper bourrin et l'album s'appelle From Hell I Rise. Ça sort à la mi-mai et on a pu écouter Idle Hands. Et franchement, ça sonne comme du Slayer. Et j'ai presque envie de vous dire, ça sonne comme un Slayer époque Divine Intervention, Diabolus et Musica. Hein, on va pas se mentir. Et du coup, ce groupe solo, c'est un All-Star Band. Et c'est plutôt bien vu. Donc, alors, vous allez me dire, donc on a Gary Holt et Paul Bostaff. On en est pas loin quand même. Donc, au chant, très bonne pioche. Donc, on a Mark Osegueda, qui est le chanteur de Death Angel. Voilà, donc, sous-groupe, enfin, pas sous-groupe, mais on va dire autre groupe qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait dans le trash de l'époque. Donc, bon, ce n'est qu'un juste retour de choses d'appeler les copains. Donc, très bon vocaliste trash. Donc, ça, c'est bon. Kerry King, bien entendu, à la guitare. À la deuxième guitare, qui c'est qu'on va chercher? C'est ça qui est top. J'adore. Moi, j'adore. C'est presque quand on prend cette fin de carrière de Slayer et le groupe de Kerry King et qu'on prend le trash, c'est presque Santa Barbara, le truc. Donc, on a Phil Demel à la guitare. Donc, ancien gratteux de Machine Head. Machine Head, d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, qui ont été les chouchous pendant un temps de Slayer et qui ne l'ont plus été quand ils ont fait leur The Burning Red et qu'ils ont commencé à faire des teintures et mettre des joggings, et Kerry King les avait traités de vendus. Et... j'adore. Et le frontman, du coup, qui n'ont pas non plus un sein, du coup, de Machine Head, avait dit de Kerry King qu'à force de manger des burgers, eh ben, ça lui avait rétréci le cerveau. Donc, voilà. C'est de bonne guerre, j'adore ça. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une musique aussi violente, c'est que quelque part, on est un peu dans l'émotion. Et donc, donc pensez au rouquin Dave Mustaine qui chiale à chaque fois qu'on lui parle de Metallica. Le mec a une carrière de ouf, mais tu lui dis tu lui dis, bon, Dave, et Metallica alors? Et là, le mec se met à chialer, hein, comme devant Oprah Winfrey, ou comme sur le divan d'un psy. Hein, voilà, donc c'est à peu près ça. Donc voilà, donc Phil Demel en soutien, donc Transfuge de Machine Head, Kyle Sanders à la basse, et ben, qui était le bassiste de L.I.E. Et alors, comment on peut se dire que c'est une petite famille aussi? C'est que L.I.E., c'était le dernier groupe des frères Abbott, c'est-à-dire batteur et guitariste de Feu Pantera. Tous les deux morts, pas dans les mêmes circonstances. Un assassiné, l'autre d'un arrêt cardiaque. Et bon, il y avait une grosse carrure, hein, l'ami Vinnie Paul. Hein. Donc bon, voilà. Donc, presque roulement de tambour. Et qui c'est qu'on a à la batterie? Eh ben Paul Bostaff. Donc en fait, on a une moitié de Slayer et une moitié de tous les autres groupes de la scène référence. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un All-Star Band. Et c'est pour ça que, je vais pas vous mentir, après avoir écouté le titre, j'ai précommandé l'album les yeux fermés. Parce que je sais que, quoi qu'il arrive de toute manière, tu sais, c'est un peu comme quand on va voir un film d'horreur typé Blumhouse Pictures. Si t'en as aimé un, t'aimeras ceux qui sortiront, c'est à peu près la même Kaamelott. Donc je pense pas qu'il y ait des grosses révolutions. Donc je serai ni surpris ni déçu. Et je vais pas vous mentir, en 2024, j'ai envie de me faire plaisir avec un bon scud de trash. Et qui mieux que l'un des pères fondateurs du trash pour m'en donner un. Alors, ça aurait pu être la fin, la fin de ce podcast et la fin de l'histoire de Slayer. Mais rebondissement... J'adore. Mais rebondissement du mois de février. Donc, bien entendu, donc on a ce All-Star Band. Et le père Kerry King, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, parce qu'il doit, il a commencé à tirer à balles réelles sur tout le monde. Voilà. En disant que de toute manière, Araya, c'était une grosse merde, que c'était lui qui faisait les parties de basse, que de toute manière, il n'avait pas voulu arrêter Slayer, que lui voulait continuer. Donc, il a commencé à balancer ces trucs-là en interview. Voilà. Et bizarrement, qu'est-ce qui se passe deux jours après, communiqué officiel du groupe, Slayer se reforme et annonce 4 ou 5 dates déjà en Amérique du Nord. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que bon, alors tout le monde dit oh, on comprend pas, c'est des vendus, tout ça, machin. Moi, je pense que globalement, comme je viens de vous le dire, c'est un peu fait à l'émotion le truc. Et je pense que le Tom Araya, la retraite, c'est pas pour lui. Voilà, c'est tout. Donc on va essayer d'être le plus honnête et le plus juste possible. Donc de dire de Slayer que c'est des vendus, non. Alors pourquoi je peux me permettre de, pourquoi on pourrait se permettre de dire ça, c'est parce que ce qui compte c'est la musique au final. Dans toute cette histoire à la con. Là. Donc ils reviennent, ils avaient dit que c'était fini, mais gna gna gna. Bon ça de toute façon, ce qu'on peut voir sur les réseaux, ils avaient dit que gna gna gna. Ça c'est des délires de sociétaires actuels. On va pas se mentir, hein. On est dans une ère de la pleurniche et les trois quarts des gens qui ouvrent leur gueule sur le métal, les trois quarts c'est des fragiles. Désolé, on va se le dire, on est en 2024. Ouais, Metal Advisory, il revient, il raccroche les wagons, voilà. Donc c'est la pleurniche actuelle. Où on avait dit que, on a le droit de changer d'avis aussi. Voilà, c'est la vie. Et puis en plus, et en fait, j'ai envie de vous dire, et puis vous emmerde en fait. Voilà, les mecs, c'est qui décide? Hein, c'est eux, ils font ce qu'ils veulent. Donc dans la vie, on a le droit de dire on s'arrête, puis on a le droit de dire on reprend, comme on a le droit de dire on s'arrête. Voilà. Comme l'a fait Dave Lombardo. Il part, il revient, il part, il revient, il vous emmerde. Donc ce qui comptera en fait dans cette histoire, c'est la qualité du son. C'est tout. Voilà. Un groupe, c'est quoi? Avant d'être de la musique, c'est aussi un business. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de débunker? Ben ouais. Regardez ce fabuleux documentaire, voilà, Some Kind of Monsters de Metallica, et voyez le Robert Trujillo et ses gros doigts signer un contrat. Bon, eh ben, ça n'a rien de glamour là-dedans. Hein. Voilà, donc il n'y a rien de glamour. Un groupe est une entreprise, et un groupe, ça gagne de l'argent. Voilà, c'est le principe. Comme un film au cinéma, je vous le révèle, un film au cinéma, oui, à la base, c'est un truc de vendu, parce que c'est un budget, et ça doit ramener de l'argent. Donc un groupe, c'est pareil. Un groupe, en premier lieu, c'est une entreprise qui est créée à plusieurs. Si on a du plaisir à faire fructifier cette entreprise et l'amener à un certain niveau, eh ben on peut décider de quitter l'entreprise, comme d'y revenir. Ouais, regardez, je vais vous prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, Steve Jobs. C'est pas ce qu'il a fait avec Apple. Voilà. À un moment donné, on l'a foutu dehors. D'autres fois, il l'avait quitté. Puis il est revenu, il a redressé, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui sera important là-dedans, c'est la musique. Moi, en tout cas, en tant que pur auditeur voilà, de Slayer, moi je me dis, 2024 c'est top. Ça veut dire que d'un côté, je vais me prendre un album qui risque d'être plutôt cool, de toute façon que je chroniquerai ici, qui est ce fameux From Hell I Rise de Kerry King. Et avec un peu de chance, je vais pouvoir voir et Kerry King du coup sur scène et Slayer sur scène et si les astres sont alignés, nous aurons peut-être un nouvel album de Slayer. Voilà. Donc au final, il n'y a personne qui est perdant, c'est une histoire, tiens, pour citer les anciens politiques, c'est gagnant-gagnant cette histoire. Donc voilà, donc alors le truc de ils avaient dit que il faudrait que et machin, bon tout ça c'est de la branlette qui a pas ça a pas lieu d'être. Voilà, tout ça c'est de la branlette, on s'en tamponne. Voilà. Par exemple Face No More, ils avaient dit qu'ils étaient terminés, ils étaient fâchés, mais ils sont revenus, ils ont fait un super album, je les ai vus en live, c'était un grand moment au Hellfest, hein, c'était en 2015, ça défonçait, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà. Et on va leur dire qu'on t'avait dit que tu reviendrais pas. Ben, te faire enculer, voilà. Voilà, je suis revenu parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent et c'est pour ça qu'on aime aussi cette musique là, c'est cette énergie là, cette émotion, ce punk, ben c'est des décisions qui sont prises à l'émotion des fois, il y a quand même un peu de business model, il y a un peu de business plan, mais bon voilà, c'est des trucs qui sont pris comme ça, c'est un peu comme modestement quand je fais ça, voilà, j'ai annoncé 10 épisodes, ben j'en ai pas fait, là je reviens, j'en fais un, voilà, ben c'est comme ça, voilà, c'est aussi ça la passion. C'est aussi ça l'envie, et puis on vit qu'une fois, donc on a le droit de prendre une décision, de revenir sur cette décision, voilà. Sinon, ben, le mariage n'existerait pas, ils sont pendant opposés, le divorce non plus, voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, moi c'est un plaisir de revenir aux manettes, moi, c'est pas un épisode qui est très long finalement sur un groupe comme ça, parce que, comme je l'ai toujours dit, le but de Metal Advisory, c'est pas d'être dans la branlette et de mettre des termes compliqués, moi je me mets à la place d'un auditeur, d'un fan, j'apprécie la musique, je parle des choses que j'aime bien, voilà, je le parle avec ce ton là, je suis pas musicien donc j'ai pas peut-être la culture hyper poussée pour vous dire que voilà la guitare, la marque de Slayer c'est du shred, c'est machin, voilà, donc je sais ce qui me plaît, la double pédale, les accords très bas, la rapidité au niveau de la descente du manche, etc, voilà, donc je sais ça, et ça me suffit en fait, voilà, donc c'était un retour aux affaires de Metal Advisory. Je ne donne pas de date pour le suivant, voilà, ça arrivera quand ça arrivera, voilà, donc à vous de surveiller un petit peu l'activité du podcast sur le réseau. Et comme j'en avais eu l'habitude il y a déjà plus d'un an, et ben si tu trouves que c'est trop fort, c'est peut-être que t'es trop vieux. Merci pour votre écoute.
Parental Advisory, le podcast explicite 100%.